Chapitre 18. Les mutilations du traité de Versailles. Suite. Locarno. Une des clauses principales du traité venant à tomber avec le pacte de garantie, qu'arriverait-il de l'ensemble si étroitement coordonné dans toutes ses parties? Le pays qui avait fait le plus de sacrifices pour le moins de retour se trouvait gravement lésé, sans même un simulacre d'explication, par le retrait d'une clause qui supprimait notre garantie militaire de sécurité. Pouvions-nous en rester là, dans le silence, quand la vie et la mort de la France étaient en jeu? Voyez le beau tapage de l'Italie pour Fiume et jusqu'à Londres par sa propre signature, elle l'avait abandonné. Le traité ne tenait plus puisque le principal était, fourni par l'Amérique, impliquant celui de l'Angleterre, se trouvait enlevé. Nous avions renoncé à la Rhénanie parce qu'on nous avait proposé de remplacer le factionnaire allemand sur le Rhin par un soldat anglais et un soldat américain aux côtés du soldat français. Voici qu'on nous retirait toute cette compagnie militaire délibérément, sans même prendre la peine de nous dire pourquoi. Quelle autre ressource que de mettre l'Amérique dans le cas de l'expliquer quand l'aide dont on avait fait tant de bruit nous était retirée sans mot dire? Sous quelque forme que ce fût, la reprise de la conversation à quatre ne pouvait tourner qu'en notre faveur. Personne de notre gouvernement ne paraît y avoir songé, personne ne s'avisa de demander de nouvelles dispositions d'accord. Jamais cas ne fut si simple ni si clair. L'article de garantie était une promesse d'échange d'une garantie militaire française contre une garantie militaire interalliée qui avait pour nos armes l'avantage de les mettre à l'abri d'un coup de nerf de notre côté. Tout était donc à reprendre d'initio, c'est-à-dire à partir du point où nous en étions quand j'avais demandé la Rhénanie. La proposition anglo-américaine n'avait pas abouti et nul autre ne nous était présenté. Faute de quoi, nous revenions à notre première demande qui n'avait pas été repoussée. Une position forte pour négocier. Rien, pas un geste, pas un mot. Jamais peut-être par nos prétendus hommes d'État nous ne fûmes plus tragiquement joués. Pour des temps inconnus, notre sort fut scellé jusqu'à la comédie de Locarno, dont le dernier acte ne surprendra que M. Briand. Il était impossible cependant d'en rester sous la menace d'une Allemagne qui ne parlait de réparation que pour amuser le tapis et ne prenait même pas la peine de dissimuler ses armements. Si nous avions maintenu l'occupation de la Rhénanie en dépit de nos alliés, nous aurions eu un beau tapage européen où alliés et ennemis se seraient trouvés d'accord contre nous. Le cas de l'Amérique ouvrant la carrière à tous événements, les combinaisons du désordre européen allaient se donner carrière à nos dépens dans le désarroi des engagements en suspens. Sauf les Allemands, les peuples étaient fatigués de se haïr, escomptant même le bénéfice d'un renouveau d'amitiés épuisées. L'Angleterre, qui savait bien que dans la guerre elle pourrait compter sur nous comme nous sur elle, n'avait pas dit adieu à la politique de Lord Haldane, dont le rôle était présentement tenu par Lord d'Abernon, le partenaire à souhait pour M. Briand. De là devait sortir le pacte universel de Locarno, où tout le monde protège tout le monde contre tout le monde, en des textes qu'en dernière heure, les violateurs du pacte belge savent accommoder à leur façon, en établissant qu'ils ont été contraints de rompre leur parole pour nous empêcher de rompre la nôtre. Comme l'Allemagne est une des puissances garantes de Locarno contre ses propres offensives, aucune faculté ne lui fera défaut pour déchirer le chiffon de papier quand et comment il voudra. Déjà, probablement, tout est préparé à cet effet dans les tiroirs secrets de la Wilhelmstrasse. Voyons donc d'un peu plus près cette affaire. Au début de septembre 1925, M. Painlevé, président du Conseil, et M. Briand, ministre des Affaires étrangères, sont à Genève, où ils assistent à la 6e assemblée de la Société des Nations. On sent que quelque chose est dans l'air. Quoi ? Un télégramme de Genève va nous l'apprendre. Monsieur Aristide Briand a fait les déclarations suivantes au rédacteur d'un journal socialiste allemand. Nous comptons fermement pouvoir nous rencontrer dès septembre ou au plus tard au commencement d'octobre avec Monsieur Stresemann. Il appartient maintenant à l'Allemagne de prononcer des paroles décisives. Dites bien que je jouerai carte sur table et que nous voulons aborder franchement toutes les questions. Nous devons arriver à une solution définitive entre les deux pays, sinon nous allons à l'abîme. J'ai prouvé ma bonne volonté, j'ai fait évacuer la Ruhr ainsi que Düsseldorf, Duisburg et Ruhrort. Nous avons été condescendants envers M. Stresemann pour lui faciliter sa politique. Nous causerons aussi avec lui des questions du désarmement et de l'évacuation des territoires occupés. une entente franco-allemande dans le domaine économique est tout à fait possible. En fait, elle a déjà commencé. Sur le plan politique, l'entente est plus difficile, mais elle n'est pas impossible. Encore une fois, je veux la paix et toute ma politique ne sert que ce but. M. Briand, une fois de plus, vient donc à l'Allemagne les mains tendues et les bras ouverts. Il lui dit « Voyez ce que j'ai déjà fait, j'ai fait évacuer la Ruhr, Düsseldorf, Duisburg, Ruhrort. Je suis prêt à faire plus encore. Nous causerons de l'évacuation des territoires occupés. » C'est ce que M. Briand appelle « jouer carte sur table ». Il montre son jeu à l'adversaire, retourne ses atouts et dit « Maintenant que la partie s'engage ». Comment l'Allemagne accueille-t-elle ce nouvel hymne à la paix? Le 15 septembre, l'ambassadeur de France à Berlin remet à M. Stresemann la note par laquelle le gouvernement français invite l'Allemagne à « causer ». Les principaux personnages allemands acceptent naturellement l'idée de cette conférence d'où rien ne peut sortir que de bon pour le Reich. Mais parmi eux, c'est à qui fera preuve du maximum d'arrogance. Le comte Bernsdorf déclare « Notre point de vue, c'est que le pacte devra être élaboré sur un pied d'égalité et de réciprocité absolue. » C'est-à-dire qu'avant même la réunion de la conférence, le principe de notre victoire est aboli. Le gouvernement français s'inquiète-t-il de cette situation et songe-t-il à remettre la réunion à des temps meilleurs? Pas du tout, il poursuit sa tâche de paix à tout prix. M. Painlevé est à ce moment président du Conseil, M. Briand, ministre des Affaires étrangères, M. Caillot, ministre des Finances, M. Steg, garde des Sceaux, et ce même jour, 15 septembre, où notre ambassadeur à Berlin remettait à M. Stresemann la note dont je viens de parler, M. Malvy était élu président de la Commission des Finances. Briand, Painlevé, Caillot, Steg, Malvy sont les hommes qui, à ce moment, président aux destinées du pays. 7 ans après la victoire, les morts vont vite. Le 23 septembre, le gouvernement allemand décide d'accepter l'invitation à la conférence. Le 28, M. von Hoesch, ambassadeur d'Allemagne à Paris, se rend au Quai d'Orsay, remet à M. Briand une note par laquelle le gouvernement allemand fait connaître son adhésion à la réunion de la conférence de Locarno. Malheureusement, il est dit que l'Allemagne fera toujours tout pour décourager M. Briand. En même temps que cette note, M. von Hoesch remet à M. Briand une autre note, ce qu'en style diplomatique on appelle une déclaration verbale, et cette seconde note porte brutalement, premièrement sur l'évacuation de la zone de Cologne, deuxièmement sur la question de la responsabilité de la guerre. On a parlé de l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations. L'Allemagne déclare officiellement que son entrée dans la Société des Nations ne pourra être interprétée comme une nouvelle signature donnée à l'article 231 du traité de Versailles par lequel l'Allemagne a reconnu porter la responsabilité du conflit de 1914. Ce qui équivaut à ceci. L'Allemagne se fait prier pour entrer dans la SDN. Elle dit « Je veux bien m'asseoir à côté de vous, France, Angleterre, etc., mais à condition qu'il soit bien entendu que je suis innocente des dommages que j'ai accepté de réparer. » Que fait M. Briand au reçu de ce document? Y a-t-il un petit coup de poing sur la table, un haut-le-corps? Il y a une note. Une petite note qui dit « Premièrement, la question de la culpabilité de l'Allemagne a été réglée à Versailles. Deuxièmement, il ne dépend que de l'Allemagne de hâter l'évacuation de la zone de Cologne. » On voit sous quels auspices va s'ouvrir la conférence de Locarno. Ces préliminaires expliquent, mieux que ne le font les textes officiels, dans quelles conditions les conversations se poursuivirent et quelle en fut la conclusion. D'un côté, la France, messieurs Briand, Caillot, Malvy, Steg, etc., cherchant la paix au prix de toutes les concessions et de tous les renoncements. De l'autre, l'Allemagne, n'ayant qu'un but, l'annulation du traité qui a consacré sa culpabilité et notre victoire. La conférence de Locarno s'ouvre le 5 octobre 1925 sous la présidence de M. Chamberlain. Le 16, la conférence prend fin. Ce jour-là, on paraffe, ne variez tour, 9 documents diplomatiques. Premièrement, un protocole qui, en résumant les travaux de la conférence, précise les points d'espoir attachés au pacte rhénan de sécurité pour la paix du monde et la restauration de l'Europe. Les représentants des gouvernements ici représentés déclarent avoir la ferme conviction que l'entrée en vigueur de ces traités et conventions contribuera grandement à amener une détente morale entre les nations qu'elle facilitera puissamment la solution de beaucoup de problèmes politiques ou économiques conformément aux intérêts et aux sentiments des peuples, et qu'en raffermissant la paix et la sécurité en Europe, elle sera de nature à hâter d'une manière efficace le désarmement prévu par l'article 8 du pacte de la Société des Nations. Par ces simples lignes, toutes les nations contractantes sont mises sur le même plan au point de vue des dangers qu'elles peuvent faire courir à la paix. Deuxièmement, un traité par lequel l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie garantissent le statu quo territorial rhénan, la frontière franco-germano-belge, ainsi que le maintien de la zone rhénane démilitarisée en vertu du traité de Versailles, rive gauche du Rhin et zone de 50 km sur la rive droite. Sur ce traité, dont on a parlé comme d'un acte extraordinaire et destiné à faire régner définitivement la paix sur le monde, une remarque est à faire. Les nations contractantes s'engagent à ne pas faire la guerre, à moins que, car il y a un « à moins que ». Il y en a même plusieurs, mais celui-ci est particulièrement à retenir. À moins qu'il ne s'agisse de l'exercice du droit de légitime défense. Or, je le demande, depuis qu'il y a des nations et des guerres, quelle est donc la nation qui jamais a prétendu faire une guerre qui ne fût pas simplement défensive? Comment l'Allemagne s'est-elle lancée dans la guerre de 1914? Ne s'est-elle pas, à la face du monde, déclarée menacée, attaquée? N'a-t-elle pas envahi la Belgique pour répondre aux incursions des avions français sur Nuremberg? Y eut-il une voix en Allemagne pour reconnaître qu'à la veille de la déclaration de guerre, nos troupes de couverture s'étaient repliées à 10 km? Une nation qui veut faire la guerre est toujours en état de légitime défense. Troisièmement, une convention d'arbitrage entre l'Allemagne et la Belgique. Quatrièmement, une convention d'arbitrage entre l'Allemagne et la France. Cinquièmement, un traité d'arbitrage entre l'Allemagne et la Pologne. Sixièmement, un traité d'arbitrage entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Septièmement, un traité d'aide mutuelle entre la France et la Pologne. Huitièmement, un traité de garantie mutuelle entre la France et la Tchécoslovaquie. Le neuvième document consiste en une déclaration relative à l'interprétation de l'article 16 du Covenant de la Société des Nations. Le 1er décembre 1925, les traités de Locarno étaient signés à Londres par les 7 nations, Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et Tchécoslovaquie. Ces documents diplomatiques, connus sous le nom de « pacte de sécurité », que contiennent-ils? Que cachent-ils? Le pacte de Locarno ne dit pas tout ce qu'il veut dire. On s'en aperçoit surtout aujourd'hui. Examiné en soi, il présente la phraséologie ordinaire de ces sortes de documents. Il y a un air innocent, voisin de l'hypocrisie. L'analyse à laquelle on pourrait procéder ne serait édifiante que si on s'éclairait à la lumière des faits qui ont suivi. La haie, qui est d'hier, procède directement de Locarno. On doit cependant retenir que ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont pris l'initiative des négociations d'où devait sortir le pacte de sécurité. Is fecit, cui prodest. Le mémorandum remis le 9 février 1925, 9 mois avant l'ouverture de la conférence, à M. Herriot, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, par M. von Hoesch, ambassadeur d'Allemagne à Paris, ne laisse aucun doute à cet égard. L'Allemagne pourrait donner son adhésion à un pacte par lequel les puissances intéressées au Rhin, notamment l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne, s'engageraient solennellement à ne point faire la guerre l'une contre l'autre. M. Herriot a revendiqué la gloire d'avoir fait bon accueil à cette proposition. Dans le privé, il ne s'est pas fait faute de dire, paraît-il, que le pacificateur brillant s'était borné à lui emboîter le pas. D'autre part, on a vu cette répudiation solennelle de la guerre matinée d'à moins que, qui résulte de toute cette paperasse. Mais il est à tirer du pacte de Locarno d'autres conséquences. C'est d'abord l'entrée de l'Allemagne à la Société des Nations. M. Briand écrivait à M. de Fleuriot, ambassadeur d'Allemagne à Londres, le 4 juin 1925, « Le gouvernement français a tenu à considérer les offres de l'Allemagne comme faites dans un désir sincère de paix et ne méconnaît nullement les difficultés avec lesquelles le gouvernement allemand, de son côté, se trouve aux prises du fait de l'opinion publique allemande et des préoccupations que lui inspirent ses relations avec la Russie, qui s'efforce de détourner l'Allemagne de la Société des Nations. Sans la Société des Nations et sans l'admission de l'Allemagne à la Société des Nations, Locarno s'écroule. Or, on a vu plus haut que le Reich entendait monnayer cette admission qui lui refaisait une virginité. L'indécision du traité en ce qui concerne les frontières orientales de l'Allemagne n'est pas moins inquiétante. M. Paul Boncour disait le 25 février 1926 à la Chambre « Les traités qui règlent la question sont moins nets que le pacte rhénan. Ici, la procédure est la même que pour le pacte rhénan, avec ces deux différences que d'abord, l'Allemagne n'a pas garanti les frontières orientales et que, faute d'une zone orientale démilitarisée, on ne peut trouver automatiquement le caractère d'un acte d'agression. Enfin, c'est l'évacuation de la zone rhénane. M. Briand, devant la Chambre, répondait à M. Fabry en s'indignant qu'on présentât Locarno comme devant entraîner l'évacuation. Dans la même semaine, à Cologne, M. Stresemann n'en déclarait pas moins publiquement que ce serait à désespérer de l'esprit de Locarno s'il n'en devait point résulter l'évacuation de la Rhénanie. En résumé, qu'est-ce donc que Locarno apporte à la France de plus que Versailles? Rien. Moins que rien, puisque l'Allemagne est devenue partie prenante et que nous lui devons des comptes. Les traités de garantie passent un trait sur le passé et proclament solennellement que les dangers de guerre peuvent aussi bien venir de la France et de la Belgique que de l'Allemagne. Le danger de guerre pouvant théoriquement procéder de toutes les nations contractantes, on se prémunit contre chacune d'elles. C'est donc que, dans le passé, les responsabilités du conflit n'incombent pas si évidemment et si absolument à la seule Allemagne. De plus, l'Allemagne déclare implicitement, et l'Europe en prend son parti, qu'elle ne renonce pas à toute modification ultérieure de ses frontières orientales. Enfin, c'est l'évacuation de la Rhénanie à bref délai. À Locarno, on a signé une traite qu'il s'agira de payer à La Haye. Le 4 juin 1926, M. Briand disait au Sénat « J'ai connu à Locarno des minutes d'émotion profonde lorsque les habitants du pays et les touristes présents ont jeté un cri d'enthousiasme passionné à la vue du protocole qui venait d'être signé par les représentants de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de l'Allemagne. » Après quoi, le Sénat donnait son approbation dans un geste de résignation, comme dit le temps de ce jour. La crise de mysticisme était déjà passée et le cri d'enthousiasme des « touristes » n'avait plus d'écho. Les pactes de Locarno n'offrent que l'apparence fragile d'une garantie. C'est une illusion propre à abuser les consciences faciles et à endormir les vigilances. Et leur insuffisance est leur danger. L'esprit de Locarno, lui, est directement nuisible aux intérêts de notre pays. Voyez ce qui arrive lorsqu'il s'agit de favoriser l'Allemagne en réduisant la durée de l'occupation de nos troupes en territoire rhénan avant le terme fixé. Notre ministre des Affaires étrangères entreprend de prouver, en invoquant le texte d'un procès-verbal non authentifié, que l'occupation du territoire ennemi avait pour but la garantie du paiement des réparations, non la sécurité militaire, qui est cependant la première raison de la présence de nos soldats en territoire ennemi. Ce texte qu'on m'attribue, recueilli dans les procès-verbaux sommaires qui n'ont jamais été présentés et qui ne furent jamais soumis aux chambres, me font précisément exprimer le contraire de mon opinion avérée. M. Briand met dans ma bouche le texte suivant sous la foi d'un rédacteur inconnu. « C'est un point de vue que je ne peux accepter. Nous avons besoin d'une garantie pour l'exécution des clauses financières. Croyez bien que les considérations militaires n'ont rien à voir avec cette question. » Qui donc aurait pu croire que, si les soldats peuvent être utilisés pour l'exécution d'un paiement, il n'est aucun besoin de ces mêmes soldats pour aider leurs camarades à défendre le commun territoire contre l'ennemi? C'est si bien le contraire du fait acquis qu'on n'a pas pu trouver une raison, même mauvaise, pour expliquer l'inexplicable, et qu'on s'en est tenu à l'affirmation sans un essai de fondement. Le débat ne dura pas moins d'une semaine, nous rappelle M. Tardieu dans son livre « La paix ». Les deux présidents échangèrent des suggestions et des textes qui aboutirent le 29 avril à la rédaction suivante qui devint le paragraphe final de l'article 429. Si, à ce moment, au bout de 15 ans, les garanties contre une agression non provoquée de l'Allemagne n'étaient pas considérées comme suffisantes par les gouvernements alliés et associés, l'évacuation des troupes d'occupation pourrait être retardée dans la mesure jugée nécessaire à l'obtention des dites garanties. Est-il rien de plus clair? Voilà un texte sur lequel les chefs de gouvernement ont délibéré pendant toute une semaine, échangeant tour à tour des textes et des suggestions. Et quand ils sont d'accord, le paragraphe ci-dessus prend place dans le traité en une forme qui a reçu l'approbation de tous pour aboutir en fin de compte à la sanction du vote des parlements intéressés. C'est le traité lui-même qui parle ainsi, monsieur le ministre, le traité qui est ou devrait être notre loi sans que nous puissions le faire dévier de ce qu'il dit pour si peu que ce soit. Or, au lieu de s'en rapporter au dernier paragraphe de l'article 429 du traité, qui prononce le dernier mot en la matière puisqu'il a été adopté par les parlements, quand M. Marin priait M. Briand à la tribune de lire le texte officiel et décisif de l'article 429, le ministre refusa d'éclaircir le sens du traité par la lecture de la clause définitive. Mais il y a mieux encore. Il ne s'agit ici que de ce qu'on appelle la discussion des préliminaires du traité entre les quatre chefs d'État. Il ne faut rien de moins que l'accord des quatre pour faire insérer un texte dans le traité lui-même, comme il est arrivé pour le dernier paragraphe de cet article 429, dont M. Briand n'a pas voulu donner lecture, mais qui n'en est pas moins inscrit, tout vif, dans le traité lui-même, et n'en peut être distrait par aucun subterfuge. Le résultat est que voilà l'insoluble difficulté où nos gens viennent se confondre. L'Angleterre, l'Italie, l'Amérique n'ont aucun intérêt militaire engagé sur le Rhin. Seule la France est tenue par ce double intérêt de simultanéité formulé et mis en valeur par l'article 429 qui fonde son droit à la double garantie. Il faut bien qu'elle l'ait demandé et obtenu puisque ses trois partenaires n'en avaient cure et que nul autre n'a pu le faire que moi-même puisque j'étais le seul à en soutenir l'intérêt. Voilà donc la question que je pose et à laquelle je défie qu'on me réponde. On conçoit que trois hommes désintéressés s'accordent pour attribuer un privilège à un quatrième faisant valoir son intérêt, mais qu'ils s'accordent tous pour instituer un privilège que personne ne réclame, voilà ce qui, même chez des ministres, ne saurait se comprendre. Si M. Wilson, Lord George, Orlando, qui ne demande rien du territoire rhénan comme garantie militaire, veulent l'offrir à M. Clémenceau, qui la voit miraculeusement arriver, sans l'avoir demandé, dans sa corbeille, où elle s'inscrit sous le titre de l'article 429, c'est un miracle dont M. Briand lui-même aura l'explication dès qu'il aura consenti à lire à la tribune le dernier paragraphe de l'article 429 du traité de Versailles.